VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, 11h en temps universel. Les explosions survenues ce matin à Bruxelles, en Belgique, à l'aéroport international et dans une station de métro ont fait au moins 21 morts selon un bilan provisoire. Il y a 11 morts à l'aéroport de Zaventem, également une dizaine à la station Malbec dans le quartier européen où il y a eu une très grosse explosion dans le métro. Selon le parquet fédéral belge cité par la chaîne publique RTBF, il y aurait eu au moins 13 morts et 35 blessés à l'aéroport de Zaventem où au moins deux explosions ont eu lieu. Ces explosions interviennent 4 jours après la capture spectaculaire de Salah Abdel Salam, un Français d'origine marocaine, seul survivant du commando auteur des attentats djihadistes du 13 novembre à Paris qui ont fait 130 morts. Au Niger, la CENI devrait annoncer ce mardi les résultats du second tour de la présidentielle de dimanche. Hier soir, les observateurs internationaux de la CDAO, de l'Union africaine des Nations unies, entre autres, ont encouragé les acteurs politiques nigériens à privilégier le dialogue. Ils se sont surtout félicités du bon déroulement du scrutin. On écoute Mbari Kallis Aristide, il est le chef de la mission de l'Union africaine.
Bien évidemment, comme toute œuvre humaine, rien n'est parfait. Quelques difficultés ont été relevées, notamment l'ouverture tardive, légèrement, il faut le dire, dans certains bureaux de vote, qui est due au fait que peut-être le matériel a été servi légèrement en retard, je dis dans quelques bureaux de vote, mais également le fait que certains membres du bureau de vote n'étaient pas arrivés à temps pour commencer. Et comme vous avez pu constater, la mission a estimé que ce retard est très très léger, entre 8h et 8h30. L'essentiel, vous savez, étant que la paix et la cohésion sociale soient le leitmotiv, n'est-ce pas, dans ce pays. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les divergences, il faudrait bien que les acteurs nigériens en arrivent, n'est-ce pas, à se parler, à une certaine concertation, parce que l'objectif étant la paix et la concertation pour le bien du Niger et de son peuple.
Élection présidentielle au Congo. Dans l'attente des résultats, 5 candidats de l'opposition mettent en place une commission technique électorale parallèle. Ils ont signé un accord pour contrer le président Sassou Nguesso si jamais un second tour avait lieu. Le point avec Eddy Sango.
Toujours pas de résultats alors que le pays était coupé du monde 2 jours durant. Le gouvernement a évoqué des raisons de sécurité et de sûreté nationale visant à empêcher l'opposition de publier des résultats illégaux. Malgré tout, l'opposition s'organise. Elle compile ses résultats parallèlement à ceux de la Commission nationale officielle, la CNI. 5 de ses candidats ont créé leur propre commission technique électorale. Guy Brice Parfait Kolelas, Jean-Marie Michel Mokoko, Claudine Mounari, André Okombi Salissa et Pascal Tsatsi Mabiala ne font plus confiance à la CNI. Ils veulent de ce fait surveiller les déroulements du vote. Partis en ordre dispersé lors du premier tour du dimanche dernier, les 5 candidats de l'opposition se sont engagés dans un pacte électoral contre M. Sassou Nguesso. Ils se sont fait la promesse de soutenir celui d'entre eux qui arriverait au second tour pour faire barrage au président sortant. Avant les scrutins, ils avaient jugé que les conditions n'étaient pas remplies pour des élections sincères, crédibles et transparentes. Dédaignant pour autant de boycotter les scrutins, ils ont appelé le peuple à exercer sa souveraineté au cas où Sassou Nguesso l'emporterait dès le premier tour, comme il l'a promis à ses partisans. Le gouvernement a jugé ces appels insurrectionnels, craignant des violences post-électorales. Les Nations Unies avaient appelé jeudi toutes les parties au calme.
À la Cour pénale internationale, hier, Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la RDC, ancien chef du mouvement de libération du Congo, a été reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des actes perpétrés en Centrafrique. La sentence sera annoncée dans quelques semaines. Idriss Fall a joint à Kinshasa Alexis Tambwe Mwamba, ministre congolais de la Justice.
La République démocratique du Congo a pris acte de cette condamnation. Nous ne sommes pas partis à ce procès. M. Bemba est poursuivi pour des faits qui se sont passés non pas au Congo, mais en République centrafricaine. Nous avons simplement pris acte, nous n'avons pas d'autres commentaires.
Kinshasa n'a joué aucun rôle dans son arrestation.
Kinshasa n'a absolument joué aucun rôle et je pense que les premiers conseils de M. Bemba se sont fourvoyés en voulant politiser l'affaire, en voulant faire passer passer M. Bemba comme un prisonnier de Kabila, ce qui n'en est strictement rien. Le président Kabila n'est pas intervenu dans ce dossier. C'était un dossier de procureur contre M. Bemba pour des faits qui se sont passés en dehors du Congo. Donc ce procès ne nous concerne pas.
Mais vous-même, vous étiez membre du MLC, vous l'avez même représenté aux discussions de Pretoria. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir votre ancien leader dans un mouvement rebelle être condamné de crimes contre l'humanité?
Mais tout à fait. J'ai eu à donner des conseils il y a 8 ans à ceux qui ont été les secrétaires généraux du parti. Lorsque M. Bemba a commencé à voir ses amis, j'ai dit aussi bien à celui qui était secrétaire général à l'époque quand il a été appréhendé qu'à celui qui l'avait suivi que la ligne de défense n'était pas la bonne. Qu'à partir du moment où ce conseil avait voulu privilégier l'aspect politique et non pas l'aspect pénal de la chose et aller en profondeur dans le dossier pour pouvoir examiner point par point les arguments du procureur et de développer des contre-arguments, qu'il risquait effectivement, disons, d'être condamné. Je l'ai dit il y a 8 ans à celui qui était secrétaire général du parti MLC à l'époque. Je l'ai dit également à celui qui l'a remplacé par la suite. Et si un jour vous le rencontrez, ils vous diront que j'avais prévu effectivement le verdict de ce jour.
Alexis Tambwe Mwamba, le ministre congolais de la Justice.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Suite ce mardi de la visite historique du président Barack Obama à Cuba, au menu de ses entretiens, la normalisation des relations entre les deux pays, les rapports économiques, mais aussi les questions relatives aux droits humains et à la démocratie. Les précisions, Claire Morin-Gibour.
Lors d'une conférence de presse conjointe lundi à La Havane, le président Raúl Castro a félicité son homologue américain pour les efforts consentis en vue de rétablir les relations diplomatiques entre leurs deux pays. Il l'a encouragé à faire plus pour que l'embargo américain contre Cuba soit levé.
El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico.
L'embargo reste le plus grand obstacle à notre développement économique et au bien-être du peuple cubain. C'est pourquoi sa levée sera essentielle à la normalisation des relations bilatérales.
Le président cubain a nié l'existence de prisonniers politiques dans son pays. Pour sa part, le président Obama a salué un jour nouveau dans les relations entre Cuba et les États-Unis. Il a promis de continuer d'œuvrer à la levée de l'embargo, mais aussi de parler de l'état des droits de l'homme à Cuba.
Ainsi que nous le faisons partout où nous nous rendons dans le monde, j'ai dit clairement que les États-Unis continueront de s'exprimer au sujet de la démocratie, y compris le droit du peuple cubain de déterminer lui-même son avenir. Je m'exprimerai au sujet des droits universels, y compris la liberté d'expression, la liberté d'association et de religion.
Barack Obama se dit impatient de rencontrer ce mardi les leaders de la société civile cubaine, les jeunes, les milieux d'affaires, de même que les dissidents. Un projet qui, selon la Maison-Blanche, ne plaît pas tellement au gouvernement cubain.
La candidate démocrate Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump se sont affrontés hier à propos de l'État hébreu devant l'AIPAC, un puissant groupe de pression juif américain. La sécurité d'Israël n'est pas négociable, a déclaré Mme Clinton. De son côté, Donald Trump a présenté Israël comme étant la seule démocratie du Moyen-Orient. Il a également qualifié de catastrophique l'accord sur le nucléaire iranien. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie rend jeudi son verdict contre l'ex-chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadžić, l'ancien président dirigeant politique des Serbes, est accusé des pires atrocités commises en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment de la mort de 1500 enfants tués dans le siège de Sarajevo, qui a duré 44 mois. Et en Birmanie, la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, qui n'a pas pu devenir présidente en raison d'une constitution héritée de la junte, devrait entrer au gouvernement selon une annonce faite au Parlement mardi. D'après l'AFP, les rumeurs la donnent ministre des Affaires étrangères, un poste qui lui permettra de représenter son pays sur la scène internationale. Ce cabinet sera le premier gouvernement civil en Birmanie depuis des décennies. Le prochain journal, ce sera avec Henri Francis et Jean-Roger Billon. Bon après-midi à tous sur le continent. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.